www.radio-g.fr.
Tous. Je m'appelle William Benaïssa, je suis le président des Jeunes Européens Angers. Je suis accompagné de Caroline.
Caroline Giraud, secrétaire des Jeunes Européens Angers également.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Oui, super, super, merci. Alors, on va avoir une émission particulière aujourd'hui. On va parler du budget européen qui est en train de se négocier actuellement. Et on va parler aussi de l'immigration britannique. On a un peu plus d'infos sur ce que va devenir l'immigration britannique. Et spoiler alert, ça n'a pas l'air très très positif pour les citoyens de l'Union européenne. Eh bien, je vous propose tout d'abord de commencer par le budget européen. Il va être négocié, là, actuellement. On est donc en pleine négociation sur quel sera le budget européen. Pour vous donner un ordre d'idée de combien dépense la Commission, on parle d'un budget de 1 000 milliards d'euros. En gros, 1 milliards 134 euros dépensés par la Commission européenne. C'est un budget qui peut paraître important, mais qui en fait ne l'est pas tant que ça. Il est en fait moins de la moitié du budget de la France. Alors, concrètement, en quoi est-ce qu'il se sépare ? Le plus gros axe de dépenses, c'est la solidarité, la compétitivité, Erasmus. Ça, c'est un gros budget qui est mis en place. Le deuxième, bah, c'est évidemment la PAC, avec notamment les autres dépenses de ressources et environnement. On parle de 330 milliards de dépenses pour la PAC. Et puis après, on a l'Europe dans le monde pour 100 milliards. On a l'administration européenne pour 70 milliards. On a même l'innovation énergétique pour 150 milliards. Le budget, là, aujourd'hui, qui va être mis en place par la Commission européenne, il est particulier. Il est particulier notamment par le départ des Britanniques. Les Britanniques étaient un contributeur important au budget de l'Union européenne et d'ailleurs, ils donnaient plus qu'ils récupèrent. Son départ, en fait, va réduire l'enveloppe globale du budget de l'Union européenne de 75 milliards d'euros, qui est quand même assez important. D'autant plus que ce budget va amener de nouvelles dépenses, avec notamment la création d'un fonds de dépenses qui va peser 14 milliards d'euros, le pacte vert et le nouveau fonds pour la transition qui pèsera 7,5 milliards, et la bataille stratégique du numérique et de l'intelligence artificielle dont on parle entre 4 et 6 milliards d'euros. Alors en fait, la contribution des pays au budget européen, c'est le plus gros axe pour d'argent, en fait, le plus gros axe de ressources pour l'Union européenne. Sachant qu'en fait, tous les pays ne donnent pas à même échelle de l'argent. Pour vous donner un exemple, l'Allemagne contribue à elle seule 25% du budget de l'Union européenne, ce qui est absolument gigantesque. Et il faut savoir aussi qu'on a 4 pays, notamment le Danemark, le Pays-Bas, l'Autriche et la Suède, qui eux demandent un tout petit budget et ont des rabais. Leur contribution est de moins d'1% de leur produit intérieur brut. On est vraiment sur une contribution à deux vitesses. Pour autant, les retombées, entre guillemets, qui sont données par ce budget, elles sont à peu près équivalentes pour chacun des pays. Alors Caroline, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, toi, du fait que ce budget de l'Union européenne, il soit moitié moins important que le budget de la France? Est-ce que tu penses que c'est normal ou...
Bah, ça pointe du doigt déjà la priorité européenne, finalement. On privilégie surtout le national, le local, plutôt que l'européen. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas un peu faire une transition, justement, vers une... Il y a déjà cette pensée d'unité européenne, donc ça passe notamment par les fonds et le financement, donc... Il y a aussi une démarche qui a enclenché, en fait.
Bah, c'est vrai qu'étant donné qu'aujourd'hui, on est une union de pays, chacun a sa police, chacun a ses dépenses nationales, et en fait, on a très peu de dépenses qui sont fédérales, entre guillemets, si nous étions dans une Europe fédérale. Ce qui fait que le budget de l'Union européenne peut paraître peu important, et en même temps, étant donné qu'on ne mutualise pas de compétences, bien, peut-être qu'il est finalement assez juste maintenant. Est-ce qu'un budget aussi faible est suffisant pour donner le sentiment d'une nationalité européenne? Peut-être pas.
Ouais. Il faut du changement.
Ouais, sans doute qu'il faut du changement. En tout cas, apparemment, à Bruxelles, le gouvernement belge a donné comme consigne de préparer plus d'une chemise pour préparer cette négociation budgétaire, parce qu'a priori, il risquerait d'y avoir des négociations qui s'éternisent.
Ça ne m'étonne pas.
Et notre deuxième sujet, Caroline, ça va être l'immigration britannique. Parce que, comme tu le sais, ils sont partis.
Ah bon ?
Eh oui, ils sont partis le 31 janvier 2020. Et
finalement.
C'est ça. Au revoir, chers Britanniques. Alors, il se trouve que, rassurez-vous, si vous voulez aller en Angleterre, c'est encore possible avec une simple carte d'identité. Je l'ai fait moi-même le week-end dernier. Mais peut-être que ce sera plus compliqué d'y aller, et c'est même sûr. Le gouvernement du Britannique donc souhaite reprendre le contrôle de ses frontières et réduire le niveau d'immigration. Et donc un nouveau système va être mis en place. Il est actuellement débattu au Parlement et donc il devrait être mis en vigueur pour le 1er janvier 2021. Donc concrètement, l'ambition, c'est que les Européens et les non-Européens seront traités à égalité, déjà dans le traitement de leurs demandes. Donc on n'aurait plus de traitement de faveur pour citoyens de l'Union Européenne. En tout cas, comme je vous disais, rassurez-vous, pour les touristes de l'Union Européenne, ça ne changera pas. On pourra visiter le Royaume-Uni sans visa pour un voyage de moins de 6 mois.
Un simple passeport et... c'est bon, finalement.
Ouais, mais même sans passeport, au final, même avec ta simple carte d'identité, tu vas pouvoir aller au Royaume-Uni.
Ok.
C'est quand même incroyable. Je veux dire, aujourd'hui, on a quand même un train qui fait un petit Paris-Londres en 3h30. On peut être très rapidement à Londres. Et si vous êtes proche de Nantes, comme nous, eh bien, tout simplement, on peut faire un aller-retour en 1 heure d'avion depuis l'aéroport de Nantes pour vraiment...
On parle à un connaisseur.
Pour vraiment très peu cher. Ensuite, le vrai problème, il est donc sur les travailleurs qui souhaitent habiter au Royaume-Uni. Je pense que comme tout le monde, lorsqu'on se balade dans les rues londoniennes, on se dit « Oh, j'y serais pas mal quand même, ce serait sympa de travailler à la City et de pouvoir regarder la ville à travers cette grande tour. » Eh bien, je vous l'annonce, ça va être un peu plus compliqué. Déjà, le Royaume-Uni souhaite vraiment une immigration choisie, et l'objectif, c'est donc de recruter les personnes avec les plus fortes compétences et les meilleurs talents. Donc autant vous dire que si vous êtes peu qualifié, vous pouvez oublier.
Le Royaume-Uni élitiste.
Au maximum.
C'est clair.
Pour vous donner un ordre d'idée, pour avoir un permis de travail, va donc falloir avoir une offre d'emploi véritable à montrer avant de pouvoir rentrer dans le Royaume-Uni. Et il va falloir avoir les preuves d'une qualification suffisante, mais aussi des preuves comme quoi notre anglais est absolument parfait. Mais là où c'est encore plus particulier, c'est que le salaire minimum exigé va être de, tiens-toi bien Caroline, 25 600 livres, soit 30 000 euros par an.
Et ça, c'est pas pour tout le monde, ça.
Est-ce que ça te donne envie d'aller travailler en Angleterre ?
Non, merci. J'aime ma France. Mais après, oui, ça force un certain nationalisme et une envie d'élitisme, d'encouragement à des personnes qui ont des talents. Mais après, est-ce que c'est pas un peu comme les autres pays, finalement, les autres pays hors Union européenne? C'est un peu le cas.
Ouais, toi, tu me parlais par exemple de l'Australie, c'est ça?
Oui, il faut avoir un minimum sur son compte en banque, vraiment avoir une preuve de que ce soit un stage ou un travail, quoi. Donc, c'est un peu comme ça partout. C'est pareil aux États-Unis maintenant, où ils sont assez sélectifs.
Et toi, t'en penses quoi? Tu trouves ça donc finalement assez normal ou pas tant que ça?
Bah, c'est légitime. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont aussi sortis de l'Union européenne. C'est renforcer cette indépendance et ce choix.
Ouais, et puis finalement, je pense que l'idée derrière ça, c'est de pas vouloir avoir de contribution sociale, entre guillemets, ou du moins d'allocation à donner à des personnes qui ont donc pas des revenus suffisants. Je pense notamment à l'équivalent du chômage qu'ils ont là-bas.
Ouais.
De pas donner ça à des personnes qui seraient pas donc des purs jus britanniques.
Ouais, après, ils ont pas mal de travailleurs, visiblement, dans leur système de santé aussi, qui est un système public, qui sont des travailleurs étrangers. Donc, ça a posé aussi ce problème de. Ils ont aussi soulevé ce problème de travailleurs publics nationaux, en fait. Donc, ça a posé pas mal de soucis.
Ouais, je viens de croire. En tout cas, dites-vous bien que ça va être beaucoup plus compliqué et il sera notamment interdit d'arriver sur le territoire britannique avec le statut d'auto-entrepreneur. Donc autant vous dire que l'idée de faire un Eldorado là-bas pour monter votre marque de fringues...
C'est fini.
C'est terminé.
Tu ne pourras pas monter ta marque.
Exactement, moi qui voulais monter une marque de lingerie pour hommes en Angleterre, appelé London Caleçon, eh bien c'est terminé, ça ne sera pas possible.
Over.
Pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point les règles là qui vont être mises en place vont être beaucoup plus restrictives que ce qu'elles étaient auparavant, il faut se dire que 70% des immigrants européens actuels n'auraient pas reçu de permis de construire, de permis de travail si ces nouvelles règles avaient été mises en place. Mais moi, j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, sur ce statut d'auto-entrepreneur, ils ne veulent pas l'accepter, parce que je pense notamment dans les nouvelles technologies où il y a bien des gens qui veulent monter des boîtes, qui commencent en étant indépendants, et au final, ils vont se fermer toutes ces personnes-là, non?
Oui, mais après, c'est aussi un statut fragile, auto-entrepreneur. Du jour au lendemain, tout peut basculer. Rien n'est sûr, en fait, que ce soit sur le plan financier ou même sur le plan... de ton idée, de ton innovation.
Ouais, c'est sûr,
voilà,
que t'as pas de garantie de réussite, non. Mais mine de rien, si ça marche, tu peux te retrouver à avoir une licorne.
C'est de l'auto. Pour un État, c'est de l'auto. Est-ce que je mise ou pas sur des auto-entrepreneurs qui peuvent carburer ou le contraire?
Eh bien, chers citoyens de l'Union européenne, sachez que nous ne sommes plus invités au loto britannique. Bon, en tout cas, on arrive au terme de cette émission. Merci à toi, Caroline.
Merci à toi, William.
Et on aura le plaisir de vous revoir prochainement dans cette émission, l'Europe dans le micro, et peut-être aussi lors de différents cafés-débats que nous organiserons prochainement dans la ville d'Angers.
J'ai hâte, venez nous nombreux en tout cas.
Exactement, donc les jeunes européens étaient très heureux d'animer cette émission et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. We'll be right back.
101.5 FM.